Donc, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Mélina Reynal-Roturier. Je viens aujourd'hui dans le cadre des conférences Thèse en poche pour vous parler de ma thèse qui s'intitule « Premier pas vers la pharmacie clinique en gériatrie et si pharmaciens et gériatres s'associaient ». Je souhaitais d'abord commencer par des remerciements pour remercier la BU, notamment Mme Korchinski, pour l'organisation de ces conférences qui, à mon avis, sont fort utiles. Donc je vais suivre un plan comme on m'a demandé. Donc tout d'abord, commencer par parler de mon parcours. Donc comment je suis arrivée en pharmacie, comment j'ai mené mon internat. Ensuite, vous détailler mon projet de thèse, donc la recherche du sujet, la rédaction. Et puis je vous présenterai ma soutenance de thèse un peu allégée. Donc pour revenir sur mon parcours, j'ai débuté mon parcours en pharmacie à l'UFR de sciences pharmaceutiques de Nantes. Donc avec une entrée en septembre 2007, où j'ai passé mon concours d'entrée. Donc à l'époque, ce n'était pas encore les années communes avec le PACES, c'était encore séparé, donc la première année pharma. Puis jusqu'en 2012, j'ai mené ma formation commune de base en pharmacie. Je tenais à appuyer l'obtention d'une maîtrise en sciences technologies santé, donc qui correspond en fait à un master 1. J'encourage d'ailleurs les étudiants qui seraient en formation initiale, à réaliser un Master 1 durant leur première partie de cursus. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des projets que vous allez pouvoir avoir par la suite, un Master 1 est quand même un réel élan vers un Master 2, vous permet de gagner du temps par la suite. Et on a quand même plus de temps de s'en occuper lorsque l'on est dans sa première partie de formation. J'ai ensuite réalisé mon externat au CHU de Nantes, passé mon concours de l'internat. J'ai commencé à découvrir la pharmacie hospitalière lors d'un poste de faisant fonction d'interne à l'APUI du CHU de Nantes. Et je suis arrivée pour mon internat de DES de pharmacie hospitalière au CHU de Caen, donc à l'UFR de sciences pharmaceutiques de Caen. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je vais détailler un peu plus mon parcours de l'internat en pharmacie. Donc pour rappeler, déjà l'internat en pharmacie, on a trois filières différentes lorsque l'on passe le concours. Il y a la pharmacie hospitalière, la biologie et la filière innovation pharmaceutique et recherche. Donc moi j'ai choisi la pharmacie hospitalière. Et dans le cadre de la pharmacie hospitalière, on nous impose en fait une maquette à réaliser donc pour la région Nord-Ouest, donc, dont le CHU de Caen fait partie. Cette maquette doit être réalisée dans les deux premières années d'internat. Cette maquette, en fait, nous impose de passer par quatre grands agréments, quatre grands domaines de la pharmacie pour découvrir un peu tout le métier. C'est-à-dire tout ce qui est validation et analyse pharmaceutique, pharmacie clinique, tout ce qui est préparation, contrôle, pharmacotechnie, donc chimiothérapie, nutrition parentérale, tout ce qui est dispositifs médicaux et stérilisation, et enfin économie de la santé et vigilance. Donc moi, j'ai choisi de réaliser ces quatre semestres à la pharmacie du CHU de Caen parce que je voyais ça comme un lieu où vraiment chaque domaine était bien défini, bien spécialisé, me permettait de découvrir chaque aspect du métier. J'ai ensuite réalisé mon cinquième semestre et mon sixième semestre à la pharmacie du centre hospitalier de Bayeux où j'ai pu découvrir et confirmer en fait surtout mon intérêt pour la pharmacie clinique, où j'ai pu participer à des séances d'éducation thérapeutique, de la conciliation médicamenteuse ou, comme vous allez le voir, des revues médicamenteuses et des visites vraiment au sein du service. Pour aller plus loin dans ma spécialisation, j'ai poursuivi par un semestre en service clinique, donc au sein du service de néphrologie dialyse du CHU de Caen. Et enfin, j'ai terminé de manière un peu plus polyvalente dans une pharmacie, donc la pharmacie du centre hospitalier de Lisieux, pour voir vraiment une stérilisation au sein d'un établissement, donc plutôt sur le secteur dispositifs médicaux. Donc bien sûr, c'est un conseil que je donne à tous. En parallèle de l'internat, il est bien de s'investir sur des formations ou des formations théoriques. Donc comme là, vous pouvez voir, moi j'ai complété ma formation par un DUI en thérapie anti-infectieuse, un DU de stérilisation des médicaments et des dispositifs médicaux, mais également par la participation à des congrès pharmaceutiques, à de nombreuses formations, et toujours en réalisant des communications sur les éventuels travaux que j'avais pu réaliser durant mon internat. Donc j'ai soutenu ma thèse en octobre 2016. Et aujourd'hui, donc depuis novembre 2016, je suis pharmacien assistant spécialiste au centre hospitalier de La Ferté-Bernard. Donc c'est un petit centre hospitalier qui correspond, si vous êtes à peu près de la région, au centre hospitalier de Bayeux. Et dans ce centre hospitalier, donc, je suis chargée du déploiement de la pharmacie clinique et notamment aussi de la production des poches de chimiothérapie. Donc si on s'intéresse maintenant au propre du sujet, donc le projet de thèse. Donc quelques conseils, on va dire, sur la recherche du sujet. Donc déjà, pour moi, il est important de définir un domaine d'intérêt pour vous. Donc moi, mon domaine d'intérêt, c'était la pharmacie clinique. Donc je me suis dit que j'allais vraiment chercher un sujet dans ce thème-là. Je me suis posé la question de est-ce que j'ai déjà des travaux en cours ou des propositions de travaux qui pourraient coller en fait à ce domaine d'intérêt. Pour moi, effectivement, j'étais au centre hospitalier de Bayeux. Et il commençait la mise en place de revues médicamenteuses des traitements des résidents des EHPAD, qui étaient gérés par la PUI. Je suis donc allée voir à ce moment-là l'équipe pharmaceutique du centre hospitalier de Bayeux pour confirmer, avoir leur accord, s'ils étaient prêts, eux, à m'encadrer pour un sujet de thèse et étoffer, pourquoi pas, un peu le sujet. Parce que forcément, qui dit thèse, dit maître de thèse et encadrement, ce qui leur prend aussi beaucoup de temps, donc c'est important de trouver quelqu'un avec qui on peut travailler facilement et qui est prêt à s'investir. J'ai aussi, pour pouvoir étoffer justement ce sujet de base, commencé des recherches bibliographiques pour voir ce qui avait déjà été réalisé, notamment grâce à la plateforme SUDOC, donc SUDOC qui permet en fait de retrouver les thèses qui ont été réalisées dans d'autres universités, voir si le sujet avait déjà été traité, et dans ce cas, pourquoi pas traiter plutôt un autre versant ou le compléter. De là, on a pu commencer à élaborer vraiment le projet, avoir, pourquoi pas, des prémices de plan, et surtout commencer à élaborer le jury pour pouvoir déposer, en fait, le sujet officiellement. Parce qu'il faut savoir qu'entre le dépôt du sujet et la soutenance, il faut un minimum de 6 mois, donc il ne faut pas traîner à déposer son sujet. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si on peut dire, moi, ça a été un de mes problèmes que j'ai rencontré, parce que vous allez voir que la composition d'un jury est réglementée. On va dire qu'on a des normes à respecter. Il faut notamment avoir 2 universitaires d'universités différentes. Ce qui posait problème, moi, sur le sujet de ma thèse, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de gériatre universitaire au CHU de Caen. Donc, c'est posé la question, parce qu'on avait un universitaire pharmacien qui est monsieur le doyen, le professeur Bougeoir. Donc s'est posé la question de faire intervenir un universitaire de la fac de médecine d'une autre spécialité ou un universitaire de la faculté de pharmacie, mais de Rouen. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut quand même anticiper, puisque moi j'ai, comme vous l'avez vu, trouvé mon sujet de thèse en 5e semestre, et pourtant je n'ai pu déposer mon sujet quasiment qu'un an après, le temps d'élaborer le jury. Ensuite vient la phase de recueil de données. Donc la phase de recueil de données, tout d'abord, pour moi, a commencé par une recherche bibliographique approfondie pour avoir vraiment le plus d'informations possible, une méthodologie claire avec des critères vraiment spécifiés sur ce que je voulais rechercher. Donc pour cela, j'ai participé aux formations à la BU et aux formations Zotero, que je vous recommande fortement, puisque réaliser une thèse sans, par exemple, l'outil Zotero, ça s'avérerait quand même compliqué, c'est un gain de temps considérable. J'ai beaucoup utilisé des plateformes qui sont d'ailleurs présentées durant ces formations, comme PubMed, comme le SysMef pour les mots-clés, comme les sociétés savantes relatives à nos disciplines, donc moi, la Société française de pharmacie clinique, mais aussi la Société française de gérontologie, mais également les JFrance ou des revues diverses qui pouvaient traiter de ce sujet. À partir de toute cette bibliographie, on a établi la méthodologie de recueil des données. C'est-à-dire, on a fixé les critères à respecter. Comme ça, mon analyse de mes données recueillies n'a pas varié entre le début de mon travail et la fin de mon travail. Et enfin, nous avons commencé à interpréter les résultats pour pouvoir débuter la rédaction de la thèse. Quelques conseils sur la rédaction proprement dite. Soyez vigilants dès le début à tout ce qui est faute d'orthographe et conjugaison. Une explication simple, c'est que lorsque l'on a une page à relire, on est plus vigilant. Lorsque l'on en a 100, on y est beaucoup moins. Et par expérience, par rapport à tous les amis aussi qui ont pu passer des thèses, malgré le nombre de personnes qui a pu les relire, le jour où on ouvre la thèse, souvent on en retrouve quand même une. Donc il vaut mieux s'y prendre dès le début et pas se dire qu'on va le reprendre à la fin. Petit conseil. Ensuite, l'important aussi, c'est la connaissance des logiciels utilisés. Il y a de nombreuses fonctionnalités utiles sur Word ou sur PowerPoint. Donc, je pense à l'insertion automatique, par exemple, de la bibliographie pour tout ce qui est Zotero. Je pense à l'insertion du sommaire automatique, à la mise en forme automatique des titres, des petites choses toutes bêtes, mais qui font gagner du temps. Et pareil pour tout ce qui est PowerPoint, l'utilisation du mode présentateur, notamment, pour pouvoir avoir vos commentaires le jour J, si jamais il y a un problème. Et donc, pour la rédaction d'une thèse, il y a quand même une méthodologie, un plan standard à avoir. Donc, moi, j'ai essayé de vous le définir simplement. Donc, comme tous travaux, il y a une introduction. Ensuite, souvent, il faut commencer par définir le contexte ou avoir, en fait, c'est un peu la partie bibliographique pour présenter ce qui vous a amené à faire ce travail. Ensuite, on présente ses objectifs et du coup, ses matériels et méthodes. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé et comment? Ensuite, on présente ses résultats. Là, j'avoue, pour moi, ça a été la partie la plus compliquée, puisque c'est une partie vraiment où il faut être objectif, présenter les résultats, juste constater et ne surtout pas commencer à interpréter. Et enfin, la partie interprétation-discussion, puis la conclusion. Pour moi, les incontournables à avoir, c'est un programme et des réunions. Donc par programme, j'entends des deadlines qu'on se fixe à soi-même pour pouvoir se motiver en fait à avancer. Sinon, on a toujours tendance soit à remettre au lendemain, soit pourquoi pas à paniquer parce qu'on se sent en retard. Et enfin, ne pas hésiter à demander donc des réunions de concertation avec son maître de thèse ou d'autres membres du jury pour avoir des avis et pour pouvoir voir comment faire avancer le projet si jamais on bloque à un moment donné. Donc je vais maintenant vous présenter ma soutenance de thèse, de manière un peu allégée. Donc pour vous rappeler le titre, donc il s'agissait des premiers pas vers la pharmacie clinique en gériatrie et si pharmaciens et gériatres s'associaient. Donc je vais commencer par vous présenter ce qu'est la iatrogénie médicamenteuse. Puis je vous présenterai le contexte général qui m'a amené à travailler sur ce sujet, donc le déploiement de la pharmacie clinique et le contexte local à Bayeux. Je vous présenterai les actions que j'ai pu mettre en place pour mener ce projet, donc la revue médicamenteuse et l'analyse et les visites pharmaceutiques au sein du service, puis une discussion et la conclusion. Donc l'iatrogénie médicamenteuse se définit par l'OMS comme étant toute réponse néfaste et non recherchée à un médicament survenant à des doses utilisées chez l'homme à des fins de prophylaxie, de diagnostic et de traitement. De nombreuses études françaises ont été faites, et internationales d'ailleurs, sur ce sujet. On a pu recenser qu'en moyenne, 130 000 événements indésirables médicamenteux graves avaient lieu chaque année en France, ce qui représente un budget de 400 millions d'euros par an. Donc on voit bien pourquoi est-ce que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse est replacée au centre des préoccupations. Donc une solution pour sécuriser cette prise en charge médicamenteuse est de déployer la pharmacie clinique, qui d'ailleurs, depuis ma thèse, fait partie de l'actualité, puisque maintenant elle est inclue dans le CAQES, si vous en avez entendu parler, au niveau des hôpitaux. Donc la pharmacie clinique, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de recentrer le patient au sein de sa prise en charge médicamenteuse et de recentrer aussi les compétences pharmaceutiques sur le patient pour pouvoir mettre en place des activités, de nouvelles activités, comme la conciliation médicamenteuse ou l'éducation thérapeutique qui vont permettre une collaboration de tous les professionnels pour que le patient gagne en autonomie. Donc tout ça pour promouvoir en fait le bon usage médicamenteux et la juste prescription, surtout au point de transition de la prise en charge du patient, puisque ce sont souvent à ces points de transition qu'on retrouve les erreurs. Donc le contexte local à Bayeux s'y prêtait bien, avec notamment l'arrivée d'un nouveau gériatre, donc qui était le docteur Blanchemain, sur les EHPAD gérés par la PEI de l'hôpital de Bayeux. Et elle était très demandeuse en fait d'une collaboration pharmacien-médecin, puisqu'elle avait déjà eu cette expérience au CHU de Caen. Donc pour revenir un petit peu sur le circuit du médicament, vous expliquer comment ça se déroulait avant mon travail. Le circuit du médicament entre la PUI et les EHPAD du SLD de l'hôpital de Bayeux était plutôt classique, avec une spécificité qui était la PDA. Donc la PDA, la préparation des doses à administrer. Donc pour vous expliquer, en fait, cette PDA est automatisée à Bayeux grâce à un automate que vous voyez ici sur la gauche. Donc cet automate est un automate de reconditionnement, ce qui sous-entend que les préparateurs en pharmacie, en amont, déconditionnent les traitements, puis cet automate, selon les prescriptions médicales, réalise des sachets de chaînes nominatives, comme vous voyez sur votre droite. Et donc ces sachets reprennent le nom du patient, le nom du médicament, le dosage, à quel moment de prise doit être donné ce traitement, ainsi que, le cas échéant, des conseils de prise. Donc, lors de mon travail, nous avons d'abord réalisé une EPP sur les prescriptions médicamenteuses chez le sujet âgé et des audits de stock en médicaments dans les salles de soins. Et ces éléments ont permis de mettre en avant des points d'action. Tout d'abord, on a mis en évidence que des recommandations récentes sur les pratiques de PDA étaient parues en 2015, qui n'étaient pas encore appliquées. C'est-à-dire que précédemment, toutes les formes galéniques qui pouvaient être déconditionnées étaient mises dans l'automate. Cependant, avec du recul, dans ces recommandations, il a été dit que certains médicaments pouvaient être à risque de réaction de contamination croisée et devaient être retirés. Je pense notamment aux immunosuppresseurs ou aux bêta-lactamines. On a pu mettre également en évidence un non-suivi des recommandations de prescription chez le sujet âgé, notamment les critères de BIRS ou les critères de Priscus, par exemple. Et enfin, il y avait un fort manque de communication entre les équipes soignantes et les équipes pharmaceutiques, ce qui générait en fait des incompréhensions entre les deux équipes. Donc notre travail a visé à optimiser la prescription médicamenteuse dans ces services d'EHPAD et du SLD, et secondairement, de permettre la sécurisation et l'adaptation des pratiques de PDA aux nouvelles recommandations et de développer une communication efficace entre les équipes. Pour cela, deux types d'actions ont été mises en place, comme je vous l'ai dit, la revue médicamenteuse et l'analyse pharmaceutique couplée aux visites hebdomadaires. Donc les revues médicamenteuses. En fait, les revues médicamenteuses, ce sont des réunions de concertation pluridisciplinaires qui avaient lieu chaque mois et durant lesquelles on réévaluait le traitement personnel des patients. Donc pour information, environ 4 dossiers patients étaient traités pour une session de 1 heure. Donc le déroulement était simple, le médecin qui souhaitait déposer un dossier, donc le médecin de l'EHPAD ou un médecin traitant qui intervenait sur cet EHPAD, envoyait à la pharmacie un document standardisé reprenant les principales informations du patient. Donc notamment son poids, sa taille, sa clairance, ses antécédents médicaux et son traitement habituel. Tout ça était transmis par mail sécurisé à la pharmacie qui procédait à son analyse. Donc, il vérifiait les indications, les interactions médicamenteuses, les posologies et la tolérance, les modalités d'administration, la disponibilité au livret thérapeutique ou l'adaptation aux recommandations actuelles. Il en découlait en fait des propositions pharmaceutiques de modification de traitement qui étaient présentées lors de la réunion. Donc là, chaque proposition ou décision prise lors de ces revues a été recensée et analysée, et cela selon la codification de la SFPC, donc la Société française de pharmacie clinique, qui a établi une codification des interventions pharmaceutiques. En ce qui concerne l'analyse pharmaceutique, donc une analyse pharmaceutique de niveau 1 était déjà réalisée avant mon arrivée. Donc une analyse pharmaceutique de niveau 1, il s'agit d'une analyse simple des posologies, des interactions, de la disponibilité des produits et parfois, selon disponibilité, la vérification des données biologiques. Nous, notre but était d'atteindre un niveau 3 d'analyse. Donc ce niveau 3 d'analyse sous-entend la mise à disposition du dossier patient. Or, à Bayeux, les dossiers patients en EHPAD USLD n'étaient pas informatisés. Donc nous avons mis en place des visites hebdomadaires au sein du service qui étaient réalisées et qui sont toujours, je pense, par un interne en pharmacie. Donc à raison à peu près de 2 à 3 heures de présence par semaine. Donc de là, j'ai analysé chaque prescription selon les critères de La Roche et les critères de Stop and Start qui sont adaptés au sujet âgé. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces listes de critères et pas les critères de Beers ou de Priscus? C'est parce que c'était les listes qui semblaient les plus adaptées aux pratiques françaises, tout simplement. Donc voilà comment on a procédé. En fait, j'ai effectué des relevés, donc qui sont en fait des photos des prescriptions des résidents à un instant T. Donc juste avant la mise en place de l'analyse et des visites pharmaceutiques au sein du service. Ensuite, il y a eu un second relevé à 6 mois après le début de l'analyse. Et pour le secteur 1, comme on avait pu commencer cette analyse plus tôt, nous avons pu faire un second relevé à 1 an. Donc ensuite, chacun de ces relevés a été comparé et chaque modification a été recensée et analysée. Donc en ce qui concerne les populations dans ces actions, elles sont comparables. On peut voir que le nombre moyen de lignes de prescription était de 10 par patient, avec un âge moyen à 80 ans, un sexe ratio aux alentours de 1 qui varie un petit peu. Et surtout, on voit que le nombre de propositions et de modifications liées à ces actions est non négligeable, puisque ça représente à peu près 3 à 4 modifications par prescription. Alors, quels problèmes et quelles solutions ont pu être trouvés lors de ces actions? Donc, durant la revue médicamenteuse, on voit que la majorité des propositions faites correspondaient à des modifications de voie ou de modalité d'administration des traitements. Et enfin, sur des modifications ou des adaptations de traitement liées à des indications qui n'étaient pas traitées ou à des médicaments qui étaient non indiqués. On retrouve à peu près la même chose lors de l'analyse et des visites pharmaceutiques où la plupart des actions venait de la réévaluation, demandait en fait la réévaluation du traitement ou l'adaptation justement des modalités d'administration par les modifications des plans de prise ou la dispensation de conseils de prise. Nous nous sommes posé la question de si certains traitements étaient plus concernés par ces actions pharmaceutiques. On voit que cela concerne majoritairement les médicaments du système nerveux, des voies digestives et du métabolisme, du système cardiovasculaire et des médicaments du sang et des organes hématopoïétiques. Le problème, c'est que ce constat ne nous a pas apporté suffisamment d'informations puisqu'il s'agit du profil standard des prescriptions des sujets âgés. Nous avons donc précisé un petit peu l'analyse en descendant à la classe ATC numéro 2. Et donc là, nous avons pu mettre en évidence certaines classes de médicaments qui étaient plus impactées par les interventions pharmaceutiques. Notamment les médicaments pour les troubles de l'acidité, les médicaments pour la constipation, les antithrombotiques et les préparations anti-anémiques, les analgésiques, les psycholeptiques et les psycho-analeptiques. Dans tout ce qui est système cardiovasculaire, c'est beaucoup plus diversifié, mais il s'agit surtout d'antihypertenseurs. Donc là, nous avons regardé s'il y avait des classes pharmacologiques qui pouvaient être plus à risque et donc sur lesquelles il fallait cibler notre analyse. Et là, on peut mettre en évidence en fait un grand nombre d'interventions sur les prescriptions d'antiacides, d'inhibiteurs de pompe à protons, de laxatifs lubrifiants et de laxatifs osmotiques. Donc par exemple, les prescriptions d'antiacides, notamment, ont été arrêtées ou modifiées, tout simplement pour limiter les risques d'interaction médicamenteuse avec la prise concomitante de d'autres traitements. La prescription d'inhibiteurs de la pompe à protons ont été majoritairement arrêtées, diminuées ou modifiées pour coller au maximum aux recommandations de traitement, parce que la plupart des patients avaient des traitements depuis plusieurs années et souvent à pleine dose. En ce qui concerne les médicaments du sang et des organes hématopoïétiques, cela touchait majoritairement les inhibiteurs sélectifs anti-10A, les anti-agrégants plaquettaires et les préparations martiales. Donc pareil, pour les anti-agrégants plaquettaires, il s'agissait majoritairement de modifications de plan de prise, c'est-à-dire, je pense notamment au cas du cardégique, dont la prise était souvent prescrite le midi. Juste le fait de changer le plan de prise et d'administrer le traitement le matin faisait économiser un passage infirmier pour de nombreux patients, et donc un gain de temps infirmier, comme nous allons pouvoir le revoir par la suite. Pour les préparations martiales, c'est la même chose. En fait, il s'agissait souvent de traitements aigus, si on peut dire, qui n'avaient pas été réévalués depuis parfois de nombreuses années. Et donc, juste un suivi thérapeutique, un bilan biologique, ont permis d'arrêter les traitements. En ce qui concerne le système nerveux, c'est beaucoup plus diversifié, avec des actions sur les antalgiques, paliers 1, 2, 3, mais aussi les neuroleptiques, les benzodiazépines, les anticholinestérasiques et les médicaments de la démence. Nous nous sommes posé la question de l'acceptation de ces interventions pharmaceutiques par les équipes soignantes. Nous avons pu réaliser ça seulement sur les propositions réalisées lors de la revue médicamenteuse, parce qu'il s'agissait de propositions pharmaceutiques franches. Toutes les actions réalisées lors de l'analyse pharmaceutique étaient faites pendant les visites et donc pouvaient être initiées soit par le médecin, soit par l'infirmière, soit par le pharmacien, et menaient en fait à une discussion immédiate. Il était donc difficile de juger si vraiment il y avait des interventions qui étaient refusées ou acceptées. Donc là, sur les propositions faites lors de la revue médicamenteuse, 75 propositions ont été acceptées sur les 86 effectuées, ce qui représente 87% d'acceptation. Donc les acceptations, dans 100% des propositions réalisées sur les modalités d'administration des traitements, ont été acceptées. Là où on a eu le plus de refus, c'était surtout sur tout ce qui était demande d'ajout de prescription, notamment pour des indications qui n'étaient pas traitées. En fait, là est ressorti le problème du dossier papier, puisque ce dossier n'était pas disponible à la pharmacie, et parfois il avait été notifié dans un compte-rendu de consultation l'arrêt d'un traitement qui n'était pas disponible au niveau du pharmacien. Donc, est-ce que nos actions ont eu un impact sur notamment la qualité des prescriptions? Donc là, on peut voir que oui, il y a eu un impact, puisqu'on a diminué en fait le nombre de critères de médication inappropriés présents entre les relevés 1 et les relevés 2. Donc, dès 6 mois d'action, on voyait déjà un impact. Les critères les plus impactés était notamment la diminution du nombre de prescriptions de benzodiazépines à longue demi-vie, la diminution du nombre de prescriptions de traitements anticholinergiques et la disparition même totale de prescriptions d'anti-inflammatoires non stéroïdiens au long cours et d'inhibiteurs calciques à libération immédiate chez le sujet âgé. Nous avons pu aussi voir un impact sur les formes galéniques qui étaient prescrites au sein de l'établissement. On a pu voir que le nombre de formes orales solides non dispersibles ont diminué au profit d'une augmentation du nombre de formes orales adaptées aux troubles de la déglutition. Donc les formes solides, dispersibles, liquides. Donc pourquoi ? Pour s'adapter au plus près aux problématiques de déglutition du sujet âgé. Il y a eu également un impact sur le personnel. Si on regarde au niveau du personnel pharmaceutique, cette réévaluation des pratiques de PDA et cette réévaluation des prescriptions a permis de gagner une heure de temps par session de déconditionnement des traitements, donc pour préparer justement l'automate à la préparation des doses à administrer, et la réduction d'une heure par semaine par service de production des chaînes nominatives, donc de temps passé sur l'automate à vérifier les chaînes qui en sortent. Au niveau du personnel infirmier, on voit que le temps de préparation et de contrôle des piluliers, lui, a augmenté. Donc pourquoi ? Ça, c'est dû à l'application des nouvelles recommandations, puisqu'auparavant, tous les traitements étaient mis dans l'automate. Mais comme je vous l'ai dit, là, certains traitements, comme les immunosuppresseurs ou les antibiotiques, ont dû sortir de cette chaîne et devaient être ajoutés manuellement par l'infirmière, donc ce qui augmente leur temps de préparation et de contrôle. Par contre, le temps passé consacré à l'administration des traitements, lui, est réduit. Pourquoi ? Parce qu'on a une diminution du nombre de lignes de traitement, mais aussi parce qu'on a une diminution du nombre de passages infirmiers, puisqu'on a pu réduire le nombre de traitements administrés le midi, notamment. Donc au total, le temps consacré à l'administration des traitements pour le personnel infirmier est resté constant. Donc notre objectif primaire était d'optimiser les prescriptions médicamenteuses au sein de l'EHPAD du SLD du centre hospitalier de Bayeux. Par quelles interventions nous avons réussi à optimiser ces prescriptions médicamenteuses ? Surtout en jouant sur les modalités de prise et traitement, en adaptant les formes galéniques ou en adaptant les plans de prise. Mais également en jouant sur le circuit du médicament, en réduisant les prescriptions hors livrée, qui généraient un double circuit, une double gestion qui était compliquée à gérer, tant pour les équipes soignantes que pharmaceutiques, et une standardisation des prescriptions qui permettait en fait d'accélérer les contrôles tant par les préparateurs que les infirmières. Et enfin, en améliorant le suivi thérapeutique par une réévaluation systématique des indications, notamment, je pense, aux traitements aigus qui parfois n'étaient pas réévalués. Donc avec quels outils ? Sur la base en fait de recommandations adaptées aux personnes âgées et toujours sur les réévaluations de rapports bénéfices-risques. Donc nous cherchions également à améliorer la communication entre les équipes soignantes et pharmaceutiques. Le fait d'avoir une présence pharmaceutique au sein du service a permis en fait d'établir une relation de confiance entre les équipes. Chacun a pu comprendre les problématiques de chacun. Et donc cette compréhension a mené à une amélioration du circuit, puisque chacun était, on va dire, promoteur de nouvelles idées. Bien sûr, dans cette communication, nous avons pu mettre en évidence qu'une implication de chacun des acteurs, est nécessaire. Nous avons pu le voir, puisque notamment un des médecins a refusé de participer aux revues médicamenteuses. Pour lui, c'était un peu, c'est vrai, du temps consacré pour fournir ses dossiers, etc. Il n'a donc pas souhaité y participer. C'est vrai que de ce plan-là, nous n'avons pas pu accéder à un des services de soins de l'EHPAD et de l'USLD. Donc en conclusion, l'impact en fait de la collaboration médecin-pharmacien a vraiment un bénéfice sur les pratiques de prescription et sur l'activité quotidienne des équipes. Et tout cela, ça contribue à la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Mais l'outil indispensable pour réussir un tel projet, c'est tout de même la communication. Il reste encore des axes d'amélioration possibles, notamment l'inclusion de la vision infirmière aux revues médicamenteuses, puisque pour le moment, elles ne sont pas incluses dans ces revues, mais c'est vrai que les problèmes d'administration, c'est plutôt elles qui les voient. Les troubles de la déglutition, les risques d'écrasement de comprimés, etc., c'est elles qui les voient. Et enfin, bien sûr, pour améliorer tout ça, le développement du dossier patient informatisé en EHPAD et en USLD pour pouvoir permettre une meilleure transmission des informations jusqu'à la pharmacie. Voilà, c'est terminé. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.